Toutes les musiques et les découvertes sont sur Calade, ma radio.
Calade Jazz. Bienvenue dans Calade Jazz,
l'émission de tous les jazz,
avec Julien, Richard et Dédé. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Calade ma radio, soyez les bienvenus dans votre émission Calade Jazz. Et aujourd'hui, je suis avec mon complice Julien. Bonjour Julien.
Bonjour.
Et nous allons parler de la contrebasse dans le jazz, thème qui va te faire plaisir.
Ah ouais, ça va me faire très plaisir.
Il me semble que tu joues de cet instrument.
Il me semble aussi.
Voilà. Eh bien, on va commencer par un petit retour dans le temps. Dans les premiers enregistrements correspondant à la naissance du jazz, eh bien, pas de contrebasse. Comme dans le premier disque enregistré en 1917 par l'original Dixieland Jazz Band. Pas de contrebasse non plus dans les célèbres Hot Five et Hot Seven de Louis Armstrong. Alors pourquoi, me direz-vous?
Mais pourquoi?
Merci. Eh bien, plusieurs problèmes ont empêché au début des années 20 l'émergence de la contrebasse dans le monde du jazz. Surtout à cause des enregistrements de 78 tours. Ils étaient confrontés à la puissance des cuivres, de la batterie et de la et la contrebasse, du coup, a du mal dans cette période de se faire entendre. Les studios d'enregistrement ne disposent pas de techniques permettant de capter les lignes jouées par le contrebassiste. Pas encore de micro performant, gravure directe des disques, vous savez, à travers le pavillon.
Ouais, tu te souviens,
voilà. Donc du coup, bah, la contrebasse, c'était pas, on l'entendait pas, quoi.
Puis souvent, il y avait juste un micro, je crois. En plus.
Voilà, c'est ça. Donc, et pourtant, de nombreux orchestres dans les années 20 fonctionnent avec des contrebassistes. Mais des traces enregistrées soit n'existent pas, soit ne permettent pas d'entendre distinctement le son de la contrebasse. Dans les premiers enregistrements de musique du jazz, la contrebasse est souvent remplacée par le tuba, qui joue des lignes de basse donc assez lourdingues. Moins bien, boum boum, boum, voilà.
Boum, boum.
Bien loin de la fluidité du jeu de la contrebasse à partir des années 30 et surtout 40-50. Donc dans les débuts du jazz, les contrebassistes employaient l'archet, puis très vite, ensuite, joueur principalement en pizzicato, donc avec les doigts.
Avec voilà. Les doigts, main pour les droitiers, main droite.
D'accord. Premier exemple.
Alors, premier exemple, vu que tu parles d'archer et de pizz, je vais vous présenter. Moi, alors, du coup, j'ai fait des petites recherches. Hein, il y a des gens que je ne connaissais pas. Donc, ce fameux contrebassiste qui s'appelle Jimmy Blanton.
Oui.
Donc, c'est lui qui a vraiment inventé la contrebasse. On va dire dans les années 30-40, et il utilisait, comme tu dis, beaucoup l'archet, et il faisait aussi du pizz, et on va écouter son solo révolutionnaire qui est sur Body and Soul, donc il rejoue Body and Soul, qu'on a déjà écouté, je crois, la dernière fois aussi, donc en duo avec Duke Ellington. Blanton arrive chez Ellington en 1939, il a 21 ans, et libère l'instrument, il improvise des lignes mélodiques complexes et utilise des harmoniques il devient aussi un soliste. Donc on va écouter Body and Soul, c'est un titre de Jimmy Green, et donc il est interprété par Jimmy Blanton et Duke Ellington, et ça a été enregistré en 1940.
Thank you. c'était Body and Soul de Johnny Green, interprété par Jimmy Blanton et Duke Ellington. On ouais, sent là, bien ouais. quand il l'archait au début et après
les doigts.
Les doigts ouais.
Le pizzicato, les doigts. Ouais.
Alors on peut dire que la contrebasse a une place unique au sein de la section rythmique d'un groupe de jazz, puisqu'elle remplit deux fonctions principales. D'abord, elle assure la stabilité harmonique tout en étant un pilier rythmique pour l'ensemble. Souvent accompagnée par la batterie et le piano, la contrebasse offre un soutien solide sur lequel les autres instruments peuvent s'appuyer pour improviser et exprimer leurs talents musicaux personnels. Un petit autre exemple ?
Oui, alors du coup, là, je vais vous parler, donc on va aller un peu dans le temps, on va aller en 1954, et je vais vous parler de Oscar Pettiford. Excusez-moi. Oscar Pettiford, il sort en 1954 un album qui s'appelle Bass by Pettiford, et c'est le premier album où un contrebassiste est leader, et il signe toutes les compositions. Avant, on n'avait pas de contrebassiste leader dans un groupe. Donc Pettiford, lui, il pousse plus loin la contrebasse que Blanton, hein, mais malheureusement, il meurt assez jeune, hein, il meurt à 40 ans, mais il va laisser beaucoup, beaucoup d'héritiers. Donc sur ce titre qui s'appelle East Lag, on retrouve donc bien sûr Pettiford à la basse, et dans l'album, il va aussi faire du violoncelle sur d'autres titres. On a un corps d'harmonie, c'est Julius Watkins, on a au sax Gigi Grice, au piano Wynton Kelly, qu'on va retrouver après dans les années 50 avec Miles Davis, l'époque Kind of Blue et tout ça, donc la grande époque de Miles, et à la batterie, un grand batteur, Max Roach, un batteur du bebop, dont on aurait pu parler le mois dernier.
Alors,
on l'a oublié, Max Roach, mais qui était un peu plus jeune que les autres. Donc on va écouter East Lag d'Oscar Pettiford, c'est tiré de Bass by B. Pettiford, c'est sorti en 54 chez Debut Records.
C'était East Lag d'Oscar Pettiford, remarquable accompagnateur, comme je l'ai dit, au tempo redoutable. Il a montré des réels dons dans le domaine du solo, hein, je crois.
Ouais. Alors voilà. Là, on entend bien. Ça, voilà. On commence à arriver sur un peu le solo moderne de contrebasse qu'on peut entendre dans les années 50, ouais. 60. Et
il a succédé à Jimmy Blanton dans l'orchestre Ellington, oui. Puisque Jimmy Blanton est mort très jeune.
Ouais, aussi.
Voilà.
Les contrebassistes ont tendance à mourir très jeune.
Bah oui, c'est bizarre, méfie-toi. Le rôle du contrebassiste dans un ensemble jazz ne se limite pas simplement à jouer des notes. Il doit également être attentif aux autres membres du groupe et être capable de s'adapter rapidement aux changements d'accords, de tempo ou de style. As-tu un exemple ?
Alors là, j'ai le plus grand exemple du contrebassiste. Hein. Je parle du titan de la contrebasse, de l'énormité, on va dire, de la contrebasse.
Parce que c'était quelqu'un... D'où le titre.
Oui, qui a joué aussi dans l'orchestre de Duke Ellington. Je parle de Charles Mingus, qui est vraiment, c'est pour ça que je dis le titan, le monstre, parce que c'est un peu le Depardieu de la contrebasse.
Oula, doucement.
Ah oui, si. Alors, c'est un pont entre Blanton et Pettiford et l'avant-garde, lui, carrément, l'avant-garde de la musique et du jazz, avec une approche unique qui fusionne composition complexe, improvisation débridée et un jeu de basse physique, lyrique et politique. C'est pour ça que je parle du Depardieu, parce que Depardieu, c'est une masse et c'est le physique.
Oui, on a compris.
Je pensais pas... Le Depardieu de ce côté-là. Son premier album en tant que leader est un premier coup de maître. Il s'appelle Pithecanthrux Erectus. On retrouve dans cette composition de groupe Jackie McLean au saxophone alto, J.R. Monrose plutôt, saxophone ténor, Mal Valdron au piano et Willie Jones à la batterie. Et on va écouter le titre éponyme qui est très dur à dire, je vais le redire. Pithecanthrux Erectus, et c'est de Charles Mingus, et c'est sorti en 1956. Thank you.
Calade.
Ma radio.
Ma radio.
C'était Pithecanthropus erectus de Charles Mingus. Énorme.
Eh oui.
D'accord.
Oui, oui, c'est énorme.
Voilà. Parlons un peu de l'interaction entre la contrebasse et les autres instruments de l'orchestre. Parce que dans un ensemble jazz, la contrebasse échange souvent des idées musicales avec les autres instruments. Par exemple, lors d'une improvisation, le contrebassiste peut choisir de répéter ou modifier une phrase jouée par le saxophoniste, le trompettiste ou le pianiste. Et cette interaction musicale crée un dialogue intéressant et dynamique qui est au cœur de la musique jazz. Qu'en penses-tu ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, je vais te prendre le parfait exemple. Un contrebassiste qui s'appelle Scott Lafaro, qui est aussi mort très très jeune, malheureusement,
voilà.
D'un accident de voiture.
Change d'instrument.
D'un accident de voiture. Alors, Scott Lafaro, et lui, c'est l'héritier de tous ces contrebassistes, en fait. On continue toujours dans l'héritage du compote. Mais lui, il vient avec, en plus, la virtuosité et le lyrisme. C'était vraiment un contrebassiste accompli en tant que rythmique et en tant que soliste. Et il était toujours en train d'emmener le soliste quand il jouait quelque part d'autre. Et le mieux, c'est qu'il est rentré dans le premier, dont on en a déjà parlé aussi, le trio de Bill Evans. Donc Bill Evans avec Paul Motion à la batterie. Donc pour moi, c'est un trio qu'il faut écouter, car il y a Bill Evans, car il y a Scott Lafaro. Et Paul Motion, trois super musiciens. Une nouvelle musique pour moi, ça a été vraiment, quand j'ai écouté une nouvelle musique de jazz, c'est vraiment un monument du jazz où on entend toutes les qualités du jazz dans l'improvisation et l'écoute. On sent vraiment qu'ils s'écoutent, ces trois personnes-là. Et on va écouter un titre qui s'appelle « My Foolish Heart ». C'est un morceau de Victor Young pour la musique. Et bien sûr, il y avait des paroles parce qu'on continue sur les fameuses chansons de Broadway, donc les paroles étaient écrites par Ned Washington. Et là, c'est interprété par le fameux Bill Evans Trio, qui a été enregistré en 1961 pendant un concert au Village Vanguard, la fameuse boîte de jazz très connue. Et donc, My Foolish Heart. Thank you.
Voilà, c'était My Foolish Heart de Bill Evans. Alors, bien que la contrebasse soit souvent perçue comme un simple instrument de soutien, elle a également été utilisée avec succès en tant qu'instrument soliste par de grands musiciens de jazz. Des artistes tels que Charles Mingus, Ron Carter ou Nels Henning, d'autres, ont prouvé que la contrebasse pouvait être utilisée pour créer des mélodies expressives et émouvantes, avec sa profondeur sonore et sa capacité à explorer différentes gammes et modes. La contrebasse peut virtuellement produire tous les effets souhaités dans une improvisation, tout en conservant l'essence du langage musical propre au jazz.
Eh oui, ouais, non, c'est, moi, c'est pour ça que c'est mon instrument, donc je ne vais pas en dire plus, mais je pense que c'est quand même un des instruments essentiels dans cette musique-là. Et là, je vais vous parler de Ray Brown. Alors, on disait qu'ils étaient tous morts jaunes. Alors, lui, non. Hein, enfin, je vais pouvoir me rassurer un peu. Ray Brown est né en 1926, il est mort en 2002. Et on va dire que c'est un très grand contrebassiste. En plus d'être un très grand contrebassiste, c'est un très grand pédagogue. Tous les bons contrebassistes de jazz ont sa méthode dans son tiroir. Alors moi, il est dans le tiroir sous la poussière, mais il est dans le tiroir. On va écouter... il a beaucoup joué avec Oscar Peterson. Donc Oscar Peterson, donc on a parlé aussi sur les trios. Donc un morceau très connu qui s'appelle Night Train, c'est un morceau qui a été écrit par Jimmy Forrest et Lewis, non pas, ils sont trois, Jimmy Forrest, Lewis Simpkins et Oscar Washington, donc c'est interprété par le Oscar Peterson Trio, c'est l'album Night Train, c'est sorti en 1963, et je voulais dire en plus pour Ray Brown, il a vraiment un groove inébranlable. Je vais y arriver. Avec Picantus Erectus, inébranlable, j'ai du mal en ce moment. Et voilà, vu que c'était un technicien hors pair. Hein, donc, et là, du coup, on va voir, on est vraiment dans le blues, donc c'est marrant. Thank you.
Calade.
Ma radio.
Ma radio.
C'était Night Train, interprété par Oscar Peterson Trio. Voilà, jusqu'en 1940, à peu près, les lignes de basse vont passer d'un temps sur deux à quatre temps, joués de manière régulière. Le bassiste marque le tempo tout en délivrant les harmonies du thème. Les bassistes vont aussi employer la technique très spectaculaire, celle dite du slap, qui délivre un jeu puissant avec notre ami Pop Foster, un des pionniers du slap que tu vas nous faire écouter.
Ouais, c'est ça. Alors moi, je ne connaissais pas du tout un Pop Foster. Donc lui, c'est le contrebassiste de la New Orleans. Et c'est pour ça qu'en fait, il slapait, parce que slapper, c'est tirage de cordes. Et pour se faire entendre, eh ben, c'était une solution pour se faire entendre, donc il tirait les cordes. Après, à la basse électrique, il y a du slap, mais c'est un peu pareil, mais c'est plutôt une technique, on va dire, rythmique, alors que là, c'était vraiment pour on slap pour se faire entendre. Donc lui, il a participé aux orchestres de New Orleans de King Oliver, de Louis Armstrong, et Louis Armstrong disait de lui... Pops, c'est le seul bassiste qui pouvait me faire danser en jouant. Et on va écouter « I will do anything for you ».
C'était « I will do anything for you » de Pop Foster.
On va dire « avec », parce que je ne sais pas si c'est lui qui l'a
raison,
écrit.
Raison. Avec Pop Foster.
Je n'ai pas fait la recherche, j'ai fait mon feignant, donc je ne sais pas qui c'est qui l'a écrit ce morceau.
Tu retourneras à la
Désolé.
Pêche. Et là, pour Duke, il fallait que les bassistes assurent le bon tempo en communion avec le batteur, soutenir la pulsation, et qu'ils fournissent les bonnes harmonies au pianiste, jouer les fondamentales.
Il doit tout faire, quoi. Là.
Voilà, exactement. Alors, autre exemple.
Alors, du coup, pour vraiment illustrer ce que tu viens de dire, vraiment, ça va être une vraie illustration, tu vas voir. C'est... On va écouter Dave Holland. Donc Dave Holland, qui est plutôt un bassiste des années 70, hein, qui est arrivé à l'époque de, comment il s'appelle, de Miles Davis, comment il s'appelle, à l'époque électrique. Lui aussi, il fait partie des monstres sacrés de la contrebasse, mais plutôt moderne. Hein, là. Donc là, c'est quelqu'un qui est toujours vivant. Donc il est connu pour son jeu acrobatique, son approche compositionnelle et sa capacité à fusionner jazz, free et world music. Et là, tu vas voir, l'illustration entre le pianiste et le batteur, dans ce titre-là, il est vraiment là. Tu me feras un commentaire à la fin du titre. Le titre s'appelle Howling, c'est tiré, c'est de Dave Holland, hein, c'est un titre de lui. C'est tiré d'un album qui s'appelle Emerald Tears. C'est sorti en 78 chez ECM.
Voilà, c'était Howling de Dave Holland, mais attends, Julien, c'était un solo.
Bah oui, tu vois.
Tu t'es un peu moqué.
T'as bien entendu la batterie. D'accord. Et le piano là.
Oui, oui, tout à fait.
Je trouvais qu'il donnait bien. Je trouvais qu'il donnait bien les harmonies, les fondamentales sur ce titre.
Ouais, c'est ça. Alors, au fil des années, les contrebassistes ont développé de nombreuses innovations techniques ainsi que des styles de jeu novateurs. Certains d'entre eux, comme Jaco Pastorius ou Esperanza Spalding, ont même incorporé des instruments électriques et divers dispositifs électroniques dans leur processus créatif. Et ces avancées technologiques permettent d'entendre encore davantage les possibilités offertes par l'instrument. As-tu un exemple ?
Ouais, alors Pastorius qui est plutôt bassiste hein, que contrebassiste. Mais bon, après, ouais, voilà, bon. Basse électrique. Ouais. Alors, on va continuer dans les la même génération que Dave Holland. Je voulais parler quand même un peu de jazzman et de contrebassiste français. Et donc, on va parler on va dire, de la référence de la contrebasse en France, c'est Henri Texier. Henri Texier, donc, c'est un monstre sacré du jazz français. Hein, il est contrebassiste, compositeur et figure majeure du jazz européen depuis les années 60. Et moi, j'aime beaucoup cet homme parce que c'est quelqu'un qui reste pas là où il en est. Il va toujours aller chercher des choses, il va chercher des jeunes musiciens, il est toujours à la recherche d'aller plus loin et de représenter sa musique ailleurs que là où elle en est. Donc son jeu puissant, lyrique et profondément ancré dans le blues, ainsi que son approche compositionnelle unique, en font un pilier de la scène de jazz internationale. Moi, j'ai eu l'honneur de le voir l'année dernière, à peu près à cette époque-là, c'était super bien au Triton, avec son groupe et son fils et tout. C'était un super groupe. Et là, on va écouter un titre qui est sorti en 2022. On appelle ça le trio africain, nous, chez les experts du jazz. C'est un album qui s'appelle Carnet de route, où il jouait avec Aldo Romano à la batterie et Luis Clavis à la clarinette. C'est un titre qui s'appelle Anno Bon et c'est un titre d'Henri Texier lui-même. ¶¶
Sublime.
Ouais.
Alors là, on reste scotché.
Super, super. Ouais. Ah non, bon, super, super titre. Moi, j'adore. C'est pour ça que je voulais le passer.
Dis-moi, quelques remarques sur l'instrument. C'est dur à prendre. C'est quand même costaud. Faut avoir les doigts.
C'est un peu physique, quoi. Mais après, physique, je dirais pas que c'est dur à apprendre. C'est comme tout instrument de musique.
Ouais. Non, parce que comme tu es avec les doigts, ça doit.
Bah, c'est comme la guitare, le violon, le violoncelle. C'est la justesse qui est un peu compliquée.
Je sais plus qui disait que le violoncelle, c'était quand même très dur dans la quand ils apprenaient, non?
C'est surtout la justesse. Pour moi, c'est la justesse.
D'accord.
Le plus important et le plus dur.
Et alors, comment toi, tu es venu à la contrebasse?
Bah, moi, j'étais bassiste.
Ah, d'accord. Donc, naturellement, le bassiste voilà, de la contrebasse?
Non, pas forcément, mais moi, ça a été naturel.
D'accord. Et tu fais que de la contrebasse actuellement?
Ouais, que ça.
D'accord.
Et si vous voulez, 18 novembre au Liberties à 19h, je joue avec mon trio Jazz Manouche.
D'accord.
Voilà, je me fais un peu de pub.
Ah, raison. Et alors, on enchaîne avec
Caméléon. Caméléon est un contrebassiste aussi, donc je voulais un peu vous faire écouter l'instrument tout seul. Donc lui aussi, il fait des solos. Je l'ai vu à Jazz à Vienne l'année dernière dans une église. C'était vachement bien, donc voilà, je voulais vous en faire profiter. Caméléon, qui n'est pas très connu, hein, c'est pas un musicien très très connu dans le milieu du jazz, mais moi j'adore. Et le morceau s'appelle Car Car Car, et c'est sorti en 2022 dans l'album qui s'appelle Fantôme Futur. Thank you.
c'était Carcarcar de Cam Meslien.
Mélian,
pardon.
Ouais, je dirais. Mais je suis pas sûr. Bon.
Alors, la contrebasse gagnant de l'espace au sein du groupe, sa sonorité s'affine. Les notes sont plus liées. Et l'on trouve, surtout chez les contrebassistes qui démontrent une inclination pour l'aspect mélodique, une rondeur de son nouvelle, telle que l'on peut entendre chez Oscar Pettiford. Alors, encore un morceau ?
Encore un morceau.
Ouais, bon,
tu nous avais parlé de Esperanza Spalding. On peut pas faire une émission sans Esperanza Spalding parce que c'est la contrebassiste du moment, très très connue, qui joue avec tout le monde. On va écouter un standard qui s'appelle On the Sunny Side on the Street de Jamie McHugh. Donc c'est interprété par Esperanza Spalding pendant un concert. Voilà, c'est en 2016, ça a été enregistré. C'est parti.
I used to walk in the shade with my blues on parade. But I'm not afraid. It's over. Passing right over. Grab your head and grab your coat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear the pit-a-pat and that happy tune in your step? Life could be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk, I admit, in the shade with my blues on parade. At once I'd be rich as Rockefeller. Stardust at my feet. Oh, the sunny side of the street.
Sunnyside on the Street de Jimmy McHugh, interprété par Esperanza Spalding. Mais on en redemande tellement c'est magnifique.
Eh oui, mais on va écouter autre chose.
Là, mais attends, Julien, je vois que c'est la fin de l'émission.
Ah, c'est l'heure. Ouais.
Sur la contrebasse. Donc maintenant, vous savez tout, presque. Hein. Oui, c'est triste. Je rappelle que vous pouvez nous réécouter le dimanche à midi, le jeudi à 19h, en podcast sur Radio Calade 100.9. Merci Julien, merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, pour votre écoute. Mais on ne va pas se quitter comme ça, tu vas nous trouver un petit bijou encore.
Oui, je vous ai trouvé un duo, parce que pour moi, voix et contrebasse, c'est vraiment le duo gagnant. C'est un lien puissant entre les instruments. Les deux instruments, je trouve qu'ils ont, je ne sais pas, il y a quelque chose qui résonne entre ces deux instruments, entre la voix et la contrebasse. Et je vous ai trouvé un petit titre d'un groupe qui s'appelle Musica Nuda. C'est un groupe italien, un duo. On retrouve Petra Magoni au chant et Ferruccio Spinetti à la contrebasse. Et ils nous font une petite reprise de Ain't No Sunshine, c'est un morceau de Billy Withers. C'est sorti tout ça en 2015. Et l'album s'appelle Little Wonder et le groupe s'appelle Musica Nuda. Au revoir.
Au revoir, à bientôt.
Ain't no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. He always gone too long. Anytime he goes away, wonder this time where he's gone. Wonder if he's gone to stay. Ain't no sunshine when he's gone. His house just ain't no home. Anytime he goes away. Ain't no sunshine when he's gone. He's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. He always gone too long. Anytime he goes away. Time he goes away, away, away.